Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La semaine dernière, nous fêtions l'exaltation de la Sainte Croix. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le psaume ecclésiastique, nous mentionnions les quatre dimensions de l'amour du Christ : la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et aujourd'hui, déjà dans la première collecte du prêtre, mais aussi dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens, il nous dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés dans l'amour, afin d'avoir la force de comprendre et de connaître avec tous, avec tous les saints, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Alors, que signifient ces quatre dimensions ? La largeur de l'amour du Christ veut dire que son amour s'étend à tous. Personne n'est exclu. Le Christ nous aime sans distinction de race, de statut social, de sexe, d'âge, de religion. C'est un amour tourné vers tous et qui est magnifiquement représenté par Jésus sur la croix, les bras grands ouverts. La longueur de son amour veut dire que nous sommes aimés depuis toujours et nous le serons éternellement d'un amour inconditionnel. Dieu reste constant dans son amour. Il ne change pas. Il reste patient et fidèle. Lorsque nous nous sentons coupables ou abandonnés de Dieu, c'est que nous oublions cette dimension d'éternité de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est la gratuité de son amour. C'est un don gratuit, donné librement, sans aucune contrainte ni condition. Il n'est pas conditionné par notre attitude, par nos oublis, par nos refus. C'est un amour qui ne dépend pas de nos mérites. Et enfin, la quatrième dimension, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle le pardon. Quelle que soit l'horreur de nos actes, Dieu nous garde son amour. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, nous dit saint Jean dans sa première épître. Il nous aime jusqu'au plus profond de notre misère. Il nous laisse libres de l'aimer ou pas, d'accepter ou de rejeter son amour. Le Christ incarne admirablement cette dimension de profondeur. Il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir semblable à nous. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix par amour pour nous, en disant « Père, pardonne-les ». Mais quel est le lien de ces quatre dimensions de l'amour de Dieu avec le thème de l'évangile du jour, l'humilité ? Eh bien, l'amour ne se développe que dans un cœur humble. Dans la première partie de l'évangile, souvenez-vous, Jésus est chez un pharisien, et se trouve là d'autres pharisiens, et aussi un homme hydropique. Alors l'hydropisie, c'est un épanchement de sérosité qui fait que le corps se remplit d'eau et est tout déformé. Symboliquement, cette enflure du corps représente l'orgueil, la vanité que l'on tire à suivre la loi à la lettre et plus avec le cœur. Saint Grégoire le Grand dit d'ailleurs que l'infirmité corporelle de l'un, donc l'homme hydropique, était la figure de la maladie intérieure des autres. Et le Christ va d'ailleurs questionner les pharisiens. Est-il permis le Shabbat de guérir ou non ? Pas de réponse. Silence complet, car ils savent que l'on peut guérir, mais devant tout le monde, ils ne peuvent pas le dire. Et Jésus guérit l'homme hydropique. Il y a en effet une certaine perversité dans le comportement des pharisiens. Ils se mettent au-dessus des autres car ils veulent, en public, se montrer irréprochables face à la loi. Mais dans l'intimité, ils ne l'appliquent pas pour eux-mêmes. Jésus les avait déjà sermonnés en les traitant d'hypocrites. Hypocrites, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et aujourd'hui, il leur redit encore. Et eux ne répondent pas, car ils savent que Jésus voit juste dans leur jeu. Quand il s'agit de leurs propres intérêts, ils passent outre à la loi. Mais ils l'appliquent avec rigueur quand il s'agit des intérêts de leur prochain. Pour le Christ, l'amour prime sur toutes les lois humaines. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés dans l'amour, nous a dit saint Paul dans son épître. Le germe divin que nous avons en nous ne pourra croître que par l'amour et non par la loi. Nous sommes invités à lâcher tout ce qui est un frein, tout ce qui est un obstacle à l'amour. Et l'orgueil et la vanité en sont les principaux. C'est en rentrant dans une attitude d'humilité que nous œuvrerons pour bâtir le royaume de Dieu, le royaume d'amour demandé par le Christ. L'humilité vient du latin humus, qui signifie terre, et qui nous rappelle notre origine. L'humilité vise à éviter que notre âme aille se réfugier dans les hauteurs, dans notre mental, et ne se joue son petit cinéma. Dorothée de Gaza écrivait : les âmes sont comme des arbres fruitiers. Quand ces arbres portent beaucoup de fruits, les branches sous le poids s'inclinent vers la terre. Par contre, les branches qui n'ont pas de fruits se dressent vers le haut. Il y a même des arbres aux branches desquelles on attache des pierres pour les contraindre à s'incliner afin qu'elles portent des fruits. Eh bien, il en va de même avec les âmes. Quand elles s'humilient, elles deviennent riches en fruits. Et plus elles le deviennent, plus elle s'humilie. L'humilité, c'est accepter de voir la réalité, reconnaître notre propre impuissance, reconnaître que Dieu est à la source de la vie, de l'intelligence et de tous les dons dont il nous a comblés. L'humilité dégage notre cœur de toute préoccupation de vanité personnelle. Et elle laisse ainsi l'action divine agir en nous. Rien n'est difficile aux humbles, disait saint Léon, car ils ne comptent pas sur leur propre valeur, mais sur l'assistance divine. L'humilité écarte de nous l'appétit de grandeur, l'appétit d'honneur, de popularité et de toutes les vanités du monde. Cette conviction et cette attitude intérieure vont se refléter extérieurement dans notre attitude vis-à-vis des autres. La personne humble ne sait pas être triste, car elle n'a plus rien à perdre, plus rien à défendre. Elle est libre. Elle sent dans ses profondeurs que Dieu est à ses côtés. L'humilité est la racine de la joie. Pour nous aider à rentrer de plus en plus dans une attitude d'humilité, nous pouvons nous appuyer sur des exemples. Et d'abord, le plus grand, c'est le Christ, au lavement des pieds ou à sa mort sur la croix. Lui, le maître, se fait le serviteur jusqu'à la mort. Et puis, il y a Marie. Marie qui est l'exemple même de la personne humble. Je suis la servante du Seigneur. Et encore, Thérèse d'Avila, coordonnez-vous qu'il soit fait de moi. Ou bien Saint François d'Assise, donc, que nous allons fêter dans 15 jours, qui avait instauré comme première règle pour ses frères qu'ils soient plus petits que les autres hommes. Quand on les méprisait, les saints ont souvent répondu : si l'on nous connaissait à fond, on dirait encore plus de mal de nous. Il faut que Dieu soit bien miséricordieux pour nous supporter. Nous sommes tous malades d'hydropisie spirituelle. Et le chemin de guérison commence par l'humilité. Les fruits de l'humilité sont la patience, la charité, l'accueil de tout et de tous dans la bénédiction. Et nous pouvons alors dire comme saint Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » À Jésus, l'humble de Nazareth, soit honneur, gloire et louange, au siècle des siècles. Amen.